Ce coup d'avertisseur dans le tunnel, Michael, c'est de l'enfantillage.
Kate, c'est une espèce de tradition. Ça me donne le sentiment d'exister.
Oui, c'est bien ce que je disais. Conduite infantile, Michael.
Je ne suis pas sûr que tu saisisses bien. La fatigue, peut-être. On a fait beaucoup de routes depuis hier. Je pense que dans une heure à peu près, tu verras Bonnie pour un contrôle complet de tes circuits.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Un événement du passé mis en récit, mêlé à des archives, des extraits de films et des musiques choisies. Chaque samedi de 19h à 20h et à toute heure sur franceculture.fr, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, plus qu'un lieu, Jukebox explorera une mythologie, équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, en avait dit Barthes. Je veux parler de la bagnole, du taco, de la tire, la caisse, la chignole, la guimbarde, ou plus sobrement, de l'automobile. La voiture autour de laquelle le XXe siècle avait bâti tout un imaginaire mécanique, celui de la puissance, de la virilité, du confort, de la fureur et du silence, et surtout du voyage. Impossible de résumer en si peu de temps cet objet devenu incontournable, alors ce soir, notre heure prendra la forme d'une errance. On y croisera un arbre venu de Chine, la tunique du Christ, un pompiste désabusé, une épingle à chapeau et une bonne dose de misogynie. Ce soir, en voiture Simone, un rêve d'automobile. Sur le bas-côté, le paysage, arraché à l'obscurité par le balayage des phares, reste muet. L'asphalte déroule sous le capot, son revêtement silencieux. Lui n'a pas mis l'autoradio, et pourtant il lutte contre le sommeil, se concentre sur les bandes réfléchissantes. Il aurait dû attraper un cure-dent à la station-service, tiens, ça l'aiderait peut-être à se concentrer, au lieu de quoi il se laisse bercer par le ronronnement du moteur et le frottement mat de la gomme sur le ruban sombre. Il est parasité par le sentiment de sa propre solitude. Il aimerait tant avoir quelqu'un à appeler pour lui dire où il se trouve. À un moment, il s'égare et, fixant loin devant lui le feu arrière d'un véhicule, il s'imagine roulant dans les vastes étendues du continent américain. Il s'imagine en fuite, convoquant pêle-mêle toutes les raisons possibles, l'impérieuse nécessité de ce voyage, une femme à retrouver, la police à fuir, une justice à rétablir. Et puis, tout à coup, révélé par les phares, un petit panneau planté sur le talus de l'autoroute lui avait sauté aux yeux. Air du Jinko. Et là, tout lui revient en tête. Il n'est pas dans un film, mais seulement sur l'autoroute A77, décidée et imposée à la fin du siècle précédent par François Mitterrand pour rapprocher son Nivernais présidentiel de la région parisienne. Mise en service au tournant du millénaire, l'A77 avait été baptisée « Autoroute de l'arbre », tant il faut désormais faire un récit de tout. Alors au bord de cette nouvelle voie rapide avaient été plantées les espèces les plus diverses, annoncées régulièrement aux automobilistes par de petits panonceaux. Et pourtant, on avait beau les chercher, ces arbres, depuis l'inauguration de l'autoroute censée les mettre à l'honneur, ils refusaient obstinément de pousser ou bien restaient à l'état rachitique. Jamais d'ailleurs notre conducteur n'avait compris à quoi ressemblait véritablement un Jinko. Et puis il chassa cette pensée parasite et décida de poursuivre. Peut-être aurait-il plus de chance sur l'aire de repos suivante, celle du cèdre ou bien du hêtre pourpre, juste avant d'Ordive et le raccordement à l'autoroute A6, l'autoroute du soleil.
<t'en> gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry no more. Cause it's soon one morning, down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else.
Retour sur la route, on the road again, les Américains de Canned Heat, 1970. Combien de temps avait-il fallu pour que les voitures prennent ainsi vie, acquérant une dimension infiniment supérieure à celle de leur seul assemblage de matière? Et d'ailleurs, avait-on jamais vu création manufacturée accéder si rapidement au rang de mythologie? Liquidons ici notre Barthes, qui, en 1957, enthousiasmé par la nouvelle Citroën, la DS19, tombée selon lui du ciel, avait consacré à l'automobile un article resté célèbre. Il y célébrait une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. On s'intéresse, continuait-il, moins en elle à la substance qu'à ses joints. La tunique du Christ était sans couture, comme les aéronefs de la science-fiction sont d'un métal sans relais. La DS-19 ne prétend pas au pur nappé. Dans les halls d'exposition, les tôles, les joints sont touchés, les rembourrages palpés, les sièges essayés, les portes caressées, les coussins pelotés. Devant le volant, on mime la conduite avec tout le corps. L'objet est ici totalement prostitué. Approprié. Deux ans plus tard, en 1959, l'écrivain Maurice Pons, l'auteur des Saisons, creusait cette même mythologie dans Le Passager de la Nuit. Le soir qui tombe, écrivait-il, c'est l'heure glorieuse des routes. Les grands arbres, agités par le vent, se découpent sur le ciel bleu sombre et les ombres frémissent sur l'asphalte. Les virages se perdent au cœur de la campagne claire. C'est aussi l'heure de la plus heureuse combustion. Dans l'air frais du soir, la pipe des carburateurs aspire l'essence avec ivresse. Le moteur ronronne de quiétude, sensible aux moindres attouchements. Nous roulions ventre à terre, inondés de vent, à l'extrême gauche de la chaussée. Je jouais de la trompe avec le genou gauche et les voitures bourgeoises s'écartaient sur notre route. Je me plaisais à imaginer de quelles épithètes on devait m'y qualifier et je suivais de quelques coups d'œil rapides l'aiguille blanche du contour qui gagnait, qui gagnait, qui gagnait sur la droite. Mon compagnon ne bronchait pas. Tout de suite, ce fut Moret que nous contournâmes dans une courbe dédaigneuse. Moret, catastrophe de la Nationale 5. Que de fois ne m'étais-je trouvé coincé dans les files de carrioles, obligé de marquer le pas derrière des poids lourds ou des voitures à chevaux, croulant sous des sacs de farine, à se croire en plein Moyen-Âge. Autrefois, c'est vrai, les routes s'efforçaient de relier les villes entre elles. Aujourd'hui, elles s'ingénient à les éviter. Et elles s'en vont battre la campagne en tous sens. À Moret, l'on pouvait faire halte et acheter chez le confiseur les fameux bonbons pralinés qu'on croquait jusqu'à Montélimar. Tant pis pour les bonbons. La déviation avait dû coûter des milliards. Je me faisais un devoir de gagner quelques minutes, non que je fusse vraiment pressé. Je pouvais bien n'arriver à Champagnole qu'à midi. Mais ma voiture n'aime pas à rouler lentement. Ça lui donne le hoquet, ça l'énerve.
Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon alors tais-toi. Y'a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Écoute, écoute un peu ça, poupée. T'entends mon air préféré. Mets-moi la radio un peu plus fort et n'aie pas peur, je vais pas aller dans les décors. Carlo, c'est ça le manque de peau. La Clash Jaguar fait une embardée et droit devant la vla qui pique dans le fossé. Et pendant que tous deux agonisaient, la radio a continué de gueuler.
Jazz dans le ravin, Serge Gainsbourg, 1958. Très tôt, les chansons s'étaient faites l'écho soit de la dimension conquérante, invincible des automobiles, soit, à mesure des premières victimes collatérales, de leur fragile enveloppe, des facilités déconcertantes avec lesquelles on pouvait les envoyer dans le décor. Dès la fin du 19e siècle, tandis que Louis Renault construit à Boulogne-Billancourt sa première voiture, est instauré en France le certificat de capacité à conduire des véhicules automobiles. C'est que l'on conçoit aisément que, si la plupart des premières autos circulent à vitesse réduite, rapidement le progrès va accélérer les choses, multipliant les sorties de route.
Beaucoup moins bien, forcément.
C'est pas grave.
C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, ouais.
Hein? Il y en a qui marchent pas de culot avec sa grosse bagnole.
Ces accidents, surtout lorsqu'ils sont graves et touchent des célébrités, nuisent à la bonne publicité du produit. Ainsi disparaît Bessie Smith en 1937, Eddie Cochran, Albert Camus et Michel Gallimard en 1960, ou bien quelques années plus tôt, en 1955, Une gueule d'ange.
The character that you usually see is sporadic nature. He's too fantastic for reality. He does many things that the character shouldn't do, and you have to select and constantly reevaluate your images. What you say is what you envision as the character. Constant simplification, constant leaning down to the specific point at hand, the line of the story, what the character is trying to do at this moment. Constantly trying to find the core, so to speak.
James Dean, interrogé ici sur la fureur de vivre. James Dean, passionné de voitures et de vitesse, dont l'un des passe-temps préférés était, dit-on, de sillonner Los Angeles le plus vite possible en affolant les voitures de police. Puis, il avait fait l'acquisition d'une Porsche 550 Spyder, un bolide produit ces années-là à moins de 100 exemplaires dans le monde et à même d'atteindre les 240 km/h, une voiture qu'il avait surnommée « Little Bastard ». Et c'est au volant de ce petit salaud qu'il avait pris la route, le 30 septembre 1955, en direction de Salinas, à 500 km de là, afin d'y participer à une compétition automobile. En chemin, excité par la course à venir, il se laisse aller. Vers 15h30, il est arrêté et verbalisé par la patrouille pour excès de vitesse, 105 km/h contre 89 autorisés. Plus tard, après 4 heures de trajet, au niveau de Cholem, la route est droite, superbe, les accotements verdoyants. On aperçoit des collines au loin. La Porsche fonce, tandis que se rapproche en sens inverse une Ford Sedan. À son bord, un étudiant qui rejoint ses parents pour le week-end et qui ralentit. « Il nous a vus, il va s'arrêter », indique alors James Dean à son passager, son mécanicien, un certain Rolf Weatherreach, assis à ses côtés. Banal quiproquo routier. L'étudiant, en effet, n'a pas vu arriver la Porsche, cette voiture grise si basse sur la route qu'elle semble s'y fondre. Et du coup, il braque pour tourner à gauche, grillant la priorité au bolide qui, ne pouvant éviter la collision, s'encastre dedans. Le mécanicien est éjecté, l'étudiant s'en sort avec quelques bleus. James Dean, lui, est transporté en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Son camarade d'infortune croit l'y entendre pousser le cri plaintif d'un garçon qui appelle sa mère, ou racontera-t-il plus tard, celui d'un homme faisant face à Dieu. Le paysage, lui, retrouve alors sa beauté et son calme. Le compteur de la Porsche pulvérisée était resté bloqué à 170 km/h, celui de James Dean, à 24 ans.
Forevermore as
1963, A Young Man Is Gone, éloge funèbre des Beach Boys en mémoire de James Dean. James Dean qui, ironie du sort, venait, au moment de sa mort, d'achever le tournage d'un film Giant, dans lequel son contrat stipulait bien qu'il ne devait en aucun cas être soumis à des conduites dangereuses. James Dean qui venait également d'appeler les automobilistes à la prudence dans un clip tourné pour la prévention routière américaine.
Beep, beep.
C'est que, dès le début, donc, les accidents font partie de l'histoire de l'automobile, frappant au hasard, et parfois dans des circonstances les plus stupides. Comme l'accident qui touche un soir de septembre 1927 la danseuse américaine Isadora Duncan, lorsque, rentrant chez elle dans sa décapotable sur la promenade des Anglais à Nice, le long foulard de soie qu'elle portait autour du cou s'était pris dans les rayons de la roue avant de son Amilcar, l'étranglant aussi sec. Les femmes, en effet, qui ne sont pas les dernières à s'étourdir de vitesse, à chanter et à glorifier ce que pourtant rapidement les hommes considèrent comme leurs petits précarés en cuir et ronces de noyer. Ces femmes, qu'elles soient conviées à faire la promotion de la déesse, comme Barbara en 1970.
Lente pour les soirées en frac, et balancée comme un hamac, elle a trimballé tous les cracks, ceux de la haute, ceux de l'arnaque. La déesse. La déesse, la déesse.
Ou bien qu'originaire du Tennessee et armée d'un sourire ultra bright, elle ne vante les mérites des Chivi comme l'américaine Dinah Shore.
See the USA in your Chevrolet. America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee, performance is sweeter, nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA and see it in your Chevrolet.
Traveling east, traveling west, wherever you go, Chevy service is best. Southward or north, near place or far, there's a Chevrolet dealer for your Chevrolet car.
See the USA in your Chevrolet. The Rockies way out west are calling you. Drive your Chevrolet through the USA, where waving fields of wheat pass in review. Where the traveling lighter with a load that's heavy, performance is sweeter, nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA and see it in your Chevrolet.
La chanteuse Dinah Shore, See the USA in your Chevrolet, dans les années 50. Et puis, bien sûr, il arrivait aussi que ces chanteuses trouvent seulement que telle ou telle marque sonnait bien, suffisamment pour en faire une chanson en guise de supplique au bon Dieu.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
enregistré en octobre 1970, Mercedes-Benz, qui sera d'ailleurs le tout dernier titre mis en boîte par Janis Joplin avant la mise en bière de la chanteuse 3 jours plus tard. Joplin qui, ce jour-là, laissera orpheline sur le parking de l'hôtel où elle s'était réfugiée, la Porsche de 1961 qu'elle avait achetée en 68 et fait repeindre de toutes les couleurs. Sans vouloir exagérément essentialiser le rapport aux voitures des femmes, notons que leur relation avait très tôt été très étroite, notamment via le rôle joué par l'épouse de celui dont Janis Joplin évoquait le nom à l'instant, R. Benz, Karl de son prénom, un industriel de Mannheim dans le sud-ouest de l'Allemagne. En 1885, Karl développe donc le premier prototype d'automobile, une sorte de gros tricycle à trois roues, mû par un moteur à essence et baptisé Patent Motorwagen. Un an plus tard, il le fait breveter. Pourtant, Karl n'est pas un marrant ni un aventurier. À peine éprouve-t-il son invention en lui faisant faire le tour du pâté de sa maison qu'il le remise dans son atelier. C'est là qu'entre en scène sa femme, Bertha. Elle aussi s'est beaucoup impliquée dans le projet, y engloutissant une grande partie de sa dot. Or, la frilosité de son mari à présenter au grand public son invention l'agace. Il faut, selon elle, que l'on comprenne l'utilité de l'automobile. Le 5 août 1888, elle décide donc, sans rien lui dire, d'emprunter la voiture de son mari et, embarquant leurs deux jeunes enfants, Richard et Eugène, de s'en aller rendre visite à sa propre mère à une centaine de kilomètres de là. Elle devient par là même la première personne à conduire une automobile pour voyager et non plus seulement pour faire un rond d'essai. En chemin, elle doit résoudre de nombreux problèmes, comme trouver du liguane, de l'éther de pétrole qu'on appellera plus tard gasoline et que l'on ne trouve alors que chez l'apothicaire. La pharmacie en question, située à Wiesloch, devient de facto la première station essence de l'histoire. Puis, lorsqu'une chaîne se brise, Bertha la répare avec l'aide d'un forgeron. Le tuyau à carburant s'obstrue ? Peu importe, elle utilise son épingle à chapeau pour le nettoyer. Et lorsqu'un câble doit être isolé, la voilà qui utilise sa jarretière. Après une journée complète de voyage à 15 km/h de moyenne, la voici arrivée à destination à la tombée du jour. Elle informe son mari de son succès par télégramme et reprend le volant le lendemain pour rentrer chez elle. Grâce à elle, naîtront notamment les plaquettes de frein. Et puis, son mari ajoutera une vitesse supplémentaire afin de faire gravir plus facilement les côtes. Il comprend enfin que sa création a de l'avenir. Nul doute qu'à l'inverse plus tard des Beatles, Bertha n'aura plus à demander l'autorisation de son mari pour emprunter la voiture.
Be a star. Maybe you can drive my car.
France Culture, Jukebox, ce soir, contrôle technique. The Beatles, Drive My Car, 1965. L'automobile et les femmes, citons encore ici quelques pionnières. Anne de Rochechouart de Mortemar, duchesse d'Uzès, première femme à décrocher son permis de conduire en avril 1898. Ou bien encore une certaine Camille Dugast qui, dès 1904, s'incruste dans l'Automobile Club de France, jusque-là exclusivement masculin. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un permis sur 20 seulement est attribué à une femme. Mais dès la fin des années 60, un tiers des conducteurs sont des femmes. Face aux efforts désespérés des hommes afin de conserver pour eux cette petite prérogative, ils s'étaient trouvés d'autres femmes puissantes pour aimer monter dans les tours. L'une des plus célèbres était sans nul doute la jeune Françoise Sagan qui, avec les droits d'auteur de Bonjour Tristesse, s'était acheté tout un tas de bagnoles, Jaguar, XK 120, décapotables, Gordini, Ferrari, Maserati, Buick, Aston Martin, des voitures qu'elle aimait conduire à tombeau ouvert.
J'ai toujours essayé de mettre la vitesse, puis les choses un peu... sottes, où on se dit, tiens, là, peut-être, on ne sait jamais... Peut-être que c'est là que ça va changer, parce que le virage est un peu trop dur, parce qu'on est un peu trop vite, parce que... Vous savez...
Il y a toujours un peu ce pari, chez vous, oui.
Oh ben ça, je crois que c'est commun à tous les... gens, non ? Enfin, à tous les gens jeunes, c'est se dire... je dispose de ma vie, de ma mort, etc. C'est une chose romanesque, non ?
Françoise Sagan au micro de Luc Bérimont, le 27 juillet 1956... Trois semaines plus tard, elle plie sa Jaguar rue de Courcelles. L'accident pourtant ne la refroidit pas, Sagan est une vraie tête brûlée. Exemple le printemps suivant, ce 13 avril 1957, près de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, elle pousse son cabriolet à 160 km/h quand soudain, elle en perd le contrôle dans un virage et après deux tonneaux, se retrouve dans un champ de blé. Sous la violence du choc, les quatre passagers qui l'accompagnent sont éjectés, elle non. Les pompiers mettent plus d'une demi-heure à la désincarcérer. Un prêtre est même appelé pour lui administrer les derniers sacrements. Mais Sagan, 21 ans, survit.
Comme je suis l'homme élégant, pour conduire je mets les gants dans les bolides extravagants de François Sagan. Dans ses romans, dans ses nouvelles, cette dame demoiselle mêle de jolies mélancolies frêles, et je chante ma ritournelle à la gloire d'elle. Bonjour, bonjour, tristesse. La chamade la laisse de guerre. Voyez le bonheur comme il passe. Allons voir ce qui le remplace. Au Bristol Palace, au Blackjack, au chemin de fer, autour de passe-passe. Les jeunes filles un peu coquines, que des messieurs plus âgés taquinent. Au bord de très jolies piscines, dans les Jaguars sublimes et les Aston Martin. Bonjour. Bonjour tristesse.
Alain Souchon, Bonjour tristesse, 2005. Mais sinon, donc, avouons-le, longtemps, la bagnole était restée associée à la virilité, sorte de substitut phallique. Lorsque le mot automobile avait été forgé, l'Académie française, en 1875, avait d'ailleurs décrété que son genre était naturellement masculin. Était-ce parce que, au volant d'une voiture, une femme est plus autonome, plus libre dès lors de mettre les voiles, que les hommes avaient toujours voulu en conserver les clés ? Henry Ford, par exemple, s'était bien gardé d'offrir une Ford T à son épouse quand le modèle était sorti, mais seulement une Detroit Electric, dont le rayon d'action était bien plus faible. Et puis, les poètes de la publicité avaient fait le reste, qu'on pense à cette pub pour Audi qui disait « Il a la voiture ». Il aura la femme. Bref, les types s'étaient débrouillés pour ne pas trop laisser traîner leurs clés de voiture, s'octroyant le siège du pilote pour, le coude posé sur la portière, inventer seul la mythologie de la route, des grandes découvertes, le tout noyé dans la mélasse d'une style guitare.
I'm a rolling stone, all alone and lost. For a life of sin, I have paid the cost. When I pass by, all the people say, just another guy on the lost highway. Just a deck of cards and a jug of wine, and a woman's lies makes a life like mine. Oh, the day we met, I went astray. I started rolling down that lost highway. Bad, just a kid like you. And now I'm lost, too late to pray. Lord, I paid the cost on the lost highway. Now boys, don't start your rambling around road of sin, are you sorrow bound? Take my advice, or you'll curse the day you started rolling down that lost highway.
Lost Highway, l'autoroute perdue, métaphore du péché, et Tube Country signé Hank Williams, une chanson composée en 1948 par un autre chanteur, le songwriter Leon Payne, un chanteur aveugle qui, quand il était jeune, se déplaçait d'un endroit à un autre en faisant du stop. Or, un jour qu'il peinait en Californie à se faire prendre pour aller rendre visite à sa mère malade au Texas, il avait écrit cette chanson. Bon, ceci dit, que pense de tout cela votre concierge?
Madame la concierge, que pensez-vous des automobilistes, vos locataires?
Écoutez, j'en ai dans ma maison quelques-uns qui ont des voitures, oui. Et ma foi, la semaine, ils ne sortent pas parce que leurs moyens ne leur permettent pas. Et le dimanche, jusqu'à 10h30, 11h, vous les voyez nettoyer, bien astiquer leur voiture. Et après, ils envoient un des plus grands enfants chez le marchand de couleurs, chercher quelques litres d'essence à crédit, parce qu'ils n'ont pas d'argent, vous comprenez. Seulement, comme ils veulent crâner et faire la haute volée, alors ils envoient le gosse à crédit chercher l'essence. Alors, ils s'en vont, ils partent vers 15-20 kilomètres, vous pouvez aller les suivre. Vous les trouverez sur le bord d'une route, en train de manger un sandwich, eux et les deux gosses. Et puis, ils reviennent tranquillement le soir, comme s'ils avaient été très loin.
Chrome on the front and back. like sugar rays, and I'll be loving you always. I want to be your honey, be there when church bells chime. But if you don't have that money, then I just don't have the time. My mind just travels along one track. I want a lavender Cadillac. I want it green or blue or black. I want a lavender Cadillac.
La chanteuse Laverne Baker, accompagnée de l'orchestre de Maurice King pour ce « I want a lavender Cadillac », autrement dit « Je veux une Cadillac couleur lavande », 1951. Mais voilà que la jauge baisse à vue d'œil, c'est le moment d'un arrêt au stand. Autrefois, donc, comme on l'entendait dans cette archive avant le disque, on allait chez le marchand de couleurs, chez le droguiste. L'essence, le pétrole, servait avant tout à s'éclairer. Les stations-service, telles qu'on les connaît, s'étaient d'abord développées dans les années 30 sur le modèle des service stations américaines, offrant essence, lavage et petites réparations mécaniques. Mais ça n'est que dans les années 50 que les stations-service modernes s'étaient développées, arborant l'architecture allongée des diners américains, leurs vastes vitrines, leurs enseignes éclairées, leurs pompistes en costume, et cette impression, la nuit, sur l'autoroute, d'être dans un tableau de Hopper.
J'ai plaqué mon job à la station-service, c'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses, rien que par vis dans les décapotables. Elle crachait un billet de mille en me demandant de vérifier l'huile. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Le jour où le vice-président du conseil est mort à l'arrière de sa déesse, j'ai donné un coup sur les vitres fumées et j'ai consolé sa gonzesse. Elle m'a filé 100 000 lires en me demandant de ne jamais rien dire. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. J'ai plaqué mon job à la station service, je suis plus rentré chez moi. Je crois pas que ça l'ait rendu triste, nous deux ça collait pas. Regardez-moi, j'ai plus de laisse. J'suis comme un pape au volant de ma caisse. Aujourd'hui, j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Aujourd'hui, j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. J'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal.
J'ai plaqué mon job à la station-service. Aujourd'hui, je n'ai plus les mains sales. Je n'ai plus personne pour me faire du mal. Alain Bachung, station-service 1979. Judicieux choix de reconversion, d'autant qu'à partir de 1980, le nombre de stations-service dégringole en France, en raison notamment de la fermeture des stations de campagne, trop peu rentables et concurrencées depuis le premier choc pétrolier par les grandes surfaces. Mais ça n'a aucun intérêt de s'arrêter la nuit dans une grande surface. Fermons donc les yeux et restons encore un peu dans le passé, dans cette fin des années 60 par exemple, lorsque faire le plein, ou même pas, ça n'était pas rien. C'est l'époque où le peintre Edward Rocha s'enflamme pour l'esthétique des stations standards qu'il décline dans de grandes toiles entre minimalisme et pop art. En France, Total, qui souhaite offrir à ses clients des espaces de repos et de détente, commande alors à un grand nom de l'architecture, Jean Prouvé, de dessiner et de concevoir des stations. Résultat, des petites formes quasi circulaires, composées de 13 facettes et 2 étages, dont il se construit une centaine d'exemplaires à travers le pays. Ces années 70, qui sont celles de l'apogée de l'automobile, où les bagnoles sont racées et n'ont pas encore l'air de veaux en plastique. À Paris, on leur déroule le tapis rouge en front de scène, le long de la voie Georges Pompidou. Ces années-là sont celles de la démocratisation progressive du permis de conduire, où l'acquisition d'une voiture marque, avec l'obtention du bac, une étape majeure vers l'indépendance. On appréhende ses premiers accidents, on revoit la route au ralenti, on perd de vue les morts et la trace des traumatisés. Pourtant, ne soyons pas injustes, la modernité ne parvient pas à tout gâcher, reste encore parfois, comme une madeleine, le retour de la magie. Le souvenir des sommeils enfantins à l'arrière des berlines, ou bien cette fatigue métaphysique du bord de l'autoroute, poésie quasi welbeckienne du café soluble insipide descendu lentement, les yeux rougis dans un gobelet en plastique, la touillette, les spécialités gastronomiques locales auxquelles on préfère, vu l'heure avancée, un sachet de chips trop grasses qui écœure et qu'il faudra bien un jour aspirer sur le tapis de l'auto, sans parler de l'aspect cinétique de la route. Revenons à Maurice Pons et à son passager de la nuit de 1959. Le soir tombait, nous roulions en silence, sur la route devenue large et lisse, les lignes jaunes tout au long des courbes traçaient leur message en morse rapide. Au-dessus de la voiture ouverte, les arbres glissaient dans l'eau du ciel comme les algues d'un grand fleuve. Ceci dit, il va bientôt pleuvoir, mieux vaudrait recapoter.
Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers 6h, 6h30, elle va être couchée, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dans un bistrot, j'appelle d'un bistrot. Je vais chez elle. Une femme qui vous écrit sur un télégramme, je vous aime. Pour aller chez elle. Ah oui, je vais chez elle, quoi. Alors je vais chez elle. Je sais pas à quel étage elle habite, je suis obligé de réveiller la concierge. Bon. Alors, la concierge me dira, elle n'est pas là, peut-être, vous ne pouvez pas monter à cette heure-là. Je lui dirai, madame, excusez-moi, mais je viens de faire 5000 km en voiture, 6000, ça fait 6000 avec le retour. Je viens de faire 6000 km en voiture pour voir madame. Excusez-moi, mais je monte.
Mmh.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that California trip? I get your kicks on Route 66.
Comment il a regardé ma caisse? Fait chier. Faut toujours qu'il démolisse ce qui est japonais ou chinois. Et il lâche pas le morceau, même un jour de deuil.
Avoue que cette fois, il t'a fait grâce de ses discours.
Et son regard, tu oublies.
Et qu'est-ce que tu espères, Mitch? Cet homme a travaillé à l'usine Ford pendant des années.
Ça aussi, ça doit être sûrement ma faute.
Arrête de te plaindre et conduis, d'accord? J'allume la radio, les enfants?
Ouais.
Vous plairez un peu de musique?
When you make that California trip, I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. Get your huh. Get your get your kicks on Route 66.
Éloge de la route, cette Route 66, par le chanteur Nat King Cole. Mais à l'heure où parmi les nations du vieux monde montent les colères sur les prix envahissants des carburants, où le futur même de la voiture semble incertain, électrique va savoir, tant l'électrique serait une autre impasse écologique. Aujourd'hui, où la moindre voiture transportant des enfants se doit d'avoir les dimensions d'un bus de tourisme ou d'un quarterback sous testostérone, et alors qu'on nous annonce pour bientôt les voitures sans chauffeur, ok Google, fous-moi dans le décor, on s'interroge sur le rêve et sur l'inévitable sortie de route civilisationnelle. Autant dès lors, sans remettre au moelleux de l'oreiller de secours, cette airbag développée dès les années 70 et que célébrait 27 ans plus tard les Anglais de Radiohead, je suis né de nouveau dans une voiture allemande rapide. Je suis étonné d'avoir survécu. Un airbag m'a sauvé la vie dans une explosion interstellaire. Je suis de retour pour sauver l'univers dans une explosion interstellaire.
Scrolling up and down, I am born again.
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, en voiture, Simone, un rêve d'automobile. La réécoute, le téléchargement, la liste des morceaux diffusés, les références des archives ou des extraits de films, c'est sur franceculture.fr à la page de Jukebox où vous pouvez également nous faire part de vos commentaires. Jukebox, c'est Chouchane Djergaillan et Antoine Villoz à la préparation. Manuel Couturier derrière la vitre, à la réalisation Agnès Catou, au micro à Maurice Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.